France Culture.
12 jours après le début des discussions, les députés ont achevé l'examen de deux propositions de loi. La première relative aux soins palliatifs, la seconde créant un droit à l'aide à mourir. C'est à ce second texte, plus controversé, auquel nous allons nous intéresser ce soir, à propos duquel les députés vont d'ailleurs se prononcer dans quelques instants dans le cadre d'un vote solennel. Pour en débattre, justement, une question, cette loi marque-t-elle une rupture anthropologique ? Et j'avais proposé pour en discuter à mes deux invités de ce soir de revenir. Ils étaient déjà venus il y a 12 jours à l'issue d'un premier débat organisé. Ils ont accepté de revenir. Merci à vous deux. Bruno Dallaporta, bonsoir.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes médecin néphrologue, vous soignez donc les reins. Vous êtes docteur en éthique et spécialisé en philosophie appliquée à la santé. Vous êtes co-auteur avec Farrugia Hosseini de cet ouvrage intitulé « Tuer les gens, tuer la terre, l'euthanasie et son angle mort », un ouvrage qui a paru en 2024 aux éditions des Compagnons d'Humanité. Face à vous, François Blot, bonsoir.
Bonsoir Quentin.
Vous reprenez votre souffle car vous étiez il y a quelques instants encore à l'Assemblée nationale. Vous êtes médecin réanimateur, président du comité d'éthique d'un hôpital parisien et l'auteur du livre intitulé « Faut-il légaliser l'aide médicale à mourir ?» C'est aux éditions Hermann, ça a paru en 2023. Merci à vous deux d'être revenus et d'être présents ce soir dans Questions du soir.
Merci à vous.
Si un patient arrive demain à ma consultation et me dit « Docteur, je ressens une souffrance insupportable et je pense à mourir », qu'est-ce que je vais lui répondre ?
L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs et de la proposition de loi relative au droit à l'aide active à mourir.
La vraie question, c'est est-ce qu'entre nous, que nous voulions ou pas la loi, nous voulons limiter cette loi à des gens qui sont à la fin de leur vie ou potentiellement l'ouvrir à des gens qui ont plusieurs années à vivre, c'est ça la question. Après, une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, oui ou non, on essaiera de trouver les bons termes.
Je tenais à saluer la qualité des échanges qui ont eu lieu dans cet hémicycle 15 jours durant. Les Français l'ont vu et ils nous le disent. L'Assemblée nationale s'est élevée à la hauteur des enjeux. Elle s'est honorée. Nous le devions aux Français. Je vous remercie.
On va décortiquer dans ce débat le texte tel qu'il devrait être voté dans quelques instants par les députés. Mais j'entame cette discussion avec un extrait d'un article du journal La Croix du 25 mai. Un extrait qui dit « En fin de compte, le nombre de personnes potentiellement éligibles reste considérable. Combien ? Aucune étude d'impact ne permet de le préciser. Mais il est clair que la future loi, si elle est adoptée, ne concernera pas seulement les patients qui n'ont plus que quelques jours, quelques semaines ou quelques mois d'espérance de vie, mais aussi ceux qui pourraient vivre, malgré la maladie, encore plusieurs années. » Fin de citation. Bruno Dallaporta, la question qui est posée en creux, entre les lignes, c'est celle de la rupture anthropologique. Est-ce que vous en voyez une à travers ce texte ?
Merci beaucoup. La rupture anthropologique, ça concerne est-ce qu'on fait ou pas tomber l'interdit de donner la mort ? Donc, c'est pas exactement votre question là tout de suite, mais je réponds à votre question. Ce texte, effectivement, a des critères très flous et très lâches. C'est-à-dire que les critères d'éligibilité sont très, très élargis à des centaines de milliers de personnes, même si François, la dernière fois, avait raison, il y a très peu de gens qui le demandent. Mais il faut distinguer les gens qui vont le demander des gens éligibles. Éligibles, c'est extrêmement vaste, hein, parce que toutes les maladies chroniques sévères, à partir du moment où une personne arrête ses traitements, et il a le droit d'arrêter les traitements, et que les souffrances deviennent insupportables, est éligible. Je ne dis pas du tout que tous vont y avoir accès au recours. Par exemple, je reprends ce que j'ai dit la dernière fois, mais l'insuffisance rénale terminale rentre exactement là-dedans. On a 50 000 personnes là-dedans. Donc si la personne veut arrêter ses traitements, si elle a des souffrances insupportables, elle est éligible. Je ne dis pas qu'elle va le faire. Et après, toutes les maladies chroniques sévères, l'insuffisance hépatique sévère, l'insuffisance respiratoire sévère, la moitié des cancers, etc. Donc on a 13 millions de personnes en ALD, affection longue durée. On peut dire qu'il y a peut-être 500 000 ou 1 million de personnes éligibles. Donc c'est pas une loi sur la fin de vie, contrairement à ce qu'on nous raconte. C'est une loi pour des personnes qui peuvent vivre encore 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est pas du tout une loi pour la fin de vie et ce ne sont pas du tout des critères stricts, ça c'est sûr.
C'est une loi sur quoi alors, si ce n'est pas une loi sur la fin de vie ? Comment est-ce que vous qualifieriez vous-même ce texte ?
C'est une loi où on fait tomber l'interdit de donner la mort dans une civilisation. C'est-à-dire que c'est un phénomène anthropologique, comme vous dites, extrêmement vraiment préoccupant. C'est gravissime, en fait, comme loi. Hein. C'est gravissime.
François Blot, votre point de vue, est-ce qu'on est là dans autre chose? Est-ce qu'on n'est pas justement dans une loi qui circonscrit la fin de vie et le pouvoir de donner la mort?
Alors, on pourra revenir sur la question de rupture anthropologique ou pas, si vous le voulez. C'est, bon, Bruno a repris là-dessus, mais c'était pas la question du début. Votre question était sur le nombre de personnes éligibles. Et Bruno a répondu sur le fait qu'il y aurait énormément de gens potentiellement. Or, moi, je m'inscris totalement en faux par rapport à ça. On a 5 critères additifs qui sont cumulatifs. Il faut avoir 5 choses, c'est pas l'une ou l'autre, c'est pas être ou jeune ou douloureux.
Il faut cocher les 5 cases.
Il faut cocher. Alors j'aime pas le mot cocher parce que ça donne un côté procédural à la chose, comme si on était là avec notre petit cahier et que on liste devant une personne si elle rentre ou pas dans les clous et que finalement elle puisse passer le portillon ou pas. Non, ce sera d'abord un examen éminemment humain. Déjà, je reviendrai aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure, une des interventions en entrée, en off. Qu'est-ce que je vais lui répondre si elle me dit « je veux l'aide à mourir » Mais c'est autre chose. Le nombre de personnes éligibles, une fois qu'on additionne les 5 critères à cocher, comme vous avez dit tout à l'heure, il en reste très peu. Il faut avoir, certes, une maladie chronique, irréversible, grave avec des souffrances réfractaires, avoir passé une phase qui non pas s'inscrit en termes de durée, effectivement, puisqu'on ne parle plus de durée, mais on parle de qualité de vie, et que la personne estime comme n'ayant plus de qualité de vie selon elle, et que la personne le demande. Donc vous voyez que tout ça, avant d'arriver à ce cumul de critères, d'arguments pour demander une aide à mourir, Il faut déjà, le nombre n'est plus de plusieurs millions ou plusieurs centaines de milliers. Et si on prend le chiffre, moi j'aime pas trop les choses qui cherchent à faire peur. Mais si on prend le chiffre le pire qu'on ait à notre disposition, qui est le chiffre canadien, qui est de 7% des personnes québécoises notamment qui décèdent d'aide à mourir, alors que la loi est assez récente, 2016. Ça nous amènerait à 40 000 personnes en France. C'est énorme. On est dans des projections déjà maximalistes et on est à 40 000 personnes. Donc pas des centaines de milliers d'une part, et on est plus près du 400 à 4 000 personnes si on se projette sur les chiffres dont on dispose en France que de centaines de milliers. Ça va pas être un barrage qui va s'ouvrir et tout d'un coup les vannes qui vont se déverser.
Je rebondis juste sur un point. Vous me dites l'expression cocher les cases, c'est un peu procédural. Or c'est une analyse humaine à laquelle nous ferons face. Dans le même temps, la procédure, François Blot, ça peut dans ce domaine-là rassurer quand même le fait qu'il y ait des barrières, que les choses soient balisées et encadrées.
Mais je ne nie pas les cinq critères et le fait qu'il faille les cocher, en effet. Ce qui m'embêtait un peu, c'était la connotation qu'il y a derrière le mot cocher. Bien évidemment, une loi, elle est là pas forcément pour faire cocher des cases, mais au moins pour mettre des cadres. Et moi, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai conclu il y a 3 ans au fait que j'étais favorable à l'aide à mourir, c'est que je me disais que jusqu'à présent, nous étions dans l'iniquité, l'arbitraire et la clandestinité, et que donc il fallait légiférer pour mettre un cadre. Donc c'est pas bon, je vais pas dire là maintenant l'inverse. En revanche, une fois ça dit, une fois ce cadre établi, à l'intérieur de ce cadre, la relation humaine s'établit. Et je reviendrai après, si vous le voulez, je vais laisser répondre Bruno, mais sur ce que j'ai entendu tout à l'heure sur la personne qui demande.
Bruno Delaporta, notamment sur cette question des chiffres et de l'ampleur
qui pourraient être concernées. Il y a une erreur de calcul élémentaire. 17%, 40 000 personnes qui ont eu recours, qui ont demandé. Mais vous me posez la question des personnes éligibles. Donc il faut faire une différence entre éligibles, grand chiffre, et qui vont avoir recours, plus petit chiffre. Mais je maintiens ce que je dis. S'il y a 7%, 40 000 éligibles, s'il y en a 1 sur 100 qui le demandent, ça fait un grand chiffre au démarrage.
Alors rentrons justement dans la loi, dans les critères. Hein, être atteint d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale, c'est l'un justement de ces critères. Une expression qui avait fait débat durant notre dernière émission, c'était justement cette expression de phase avancée qui a été précisée par les députés. Je les cite, cette phase est caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie. Bruno Dalla Porta, est-ce que cette rédaction vous satisfait ?
Mais en fait, c'est complètement flou. Par exemple, François, en hémodialyse, on a 50 000 personnes. Je ne dis pas que les 50 000 vont vouloir un suicide assisté. Je parle de la totalité des personnes éligibles. Si elle arrête un traitement, elle peut avoir des souffrances insupportables avec une qualité de vie altérée. Leur vie est extrêmement altérée. Donc les critères sont extrêmement flous. Il y en a très peu qui le demandent, ça c'est un autre problème, mais les critères sont extrêmement flous, extrêmement vagues, et ils concernent la maladie chronique en général, très à distance de la fin de vie, c'est pas du tout strict.
François Blot, est-ce que vous identifiez le même flou justement dans les précisions apportées par les députés ?
Non, je trouve qu'au contraire, on a voulu nous vendre cette loi comme étant la plus permissive d'Europe ou du monde, etc. Alors que, on peut d'ailleurs s'en réjouir ou s'en désoler, mais les 12 derniers jours de débat ont plutôt restreint les choses, ont cherché à rendre les choses plus mesurées par rapport à des critères qui étaient plus larges au départ. Et effectivement, une personne, pour faire partie d'une association de patients porteurs de maladies rénales, j'ai aussi un petit aperçu sur les 55 000 dialysés ou les 45 000 greffés du rein que nous avons en France. Évidemment, c'est une maladie chronique, irréversible. Les souffrances peuvent être dures à supporter et même assez invivables. De là à ce que la personne, que je sache, n'a pas, c'est d'ailleurs toi-même qui nous l'a dit, une demande de dialyse.
Je suis entièrement d'accord, mais je distingue la totalité éligible avec ce qu'il demande.
Terminé, François, je vous rendrai la parole.
Je pense que ça sert à rien de se faire peur. Les gens, je les pense intelligents. Et ils ont un sens. D'abord, chacun a plutôt envie de vivre que de mourir, de façon assez instinctive. Et chacun saura faire la part des choses entre ce qu'il vit, mais qui mérite d'adapter son traitement et de l'améliorer et de continuer à vivre malgré ses douleurs difficiles à supporter et qui n'ira pas jusqu'à l'aide à mourir, la demande d'aide à mourir. Et certaines personnes, de l'ordre de 1 à 4% si on s'en tient aux chiffres européens, pourront peut-être faire cette demande, 4% des décès, hein, j'entends. On peut effectivement se dire qu'à partir du moment où on ouvre ce droit-là, les gens vont s'y engouffrer. Je ne le crois pas une seconde. Bruno dit lui-même que dans son service, il a peu de demandes. Et moi, en cancéro, j'ai peu de demandes. Pour autant, nous en avons.
Une précision, le premier texte de loi vient d'être adopté à l'unanimité. Celui qui concerne les soins palliatifs. Bruno Dalla Porta, on continue ce débat. Est-ce que l'argument avancé par François Blot, on joue à se faire peur, il faut que l'on cesse ça, il faut qu'on arrête de se faire peur. Est-ce que vous êtes sensible à cet argument ? Est-ce que vous participez justement à nous faire peur avec vos chiffres et vos arguments ?
En réalité, il faut différencier le court terme du long terme. Il faut différencier l'exception de la collectivité. Une loi comme l'interdit de donner de la mort, y compris la demande d'autrui, est là pour protéger les plus vulnérables dans le temps et dans l'espace. Elle est universelle. Universelle, ça veut dire dans le temps et dans l'espace. Donc mon problème n'est pas demain matin, est-ce que les critères vont tenir ? C'est à long terme.
Je vous permets de vous couper car on est en train justement d'assister au résultat du second texte. Normalement, le texte est adopté, les députés ont adopté la proposition de loi désormais relative au droit à l'aide à mourir. C'est chose faite du moins à l'Assemblée nationale puisque le chemin parlementaire se poursuivra au Sénat normalement au mois de septembre. Bruno Dalla Porta, pardon de vous avoir coupé.
Bien, donc là moi je trouve ça extrêmement gravissime pour notre démocratie. Je suis pas en train de dire... Donc, prenons les choses différemment. On a en fait une médecine qui, depuis le XXe siècle, a repoussé les complications aux âges extrêmes de la vie. On vit plus longtemps et on a un grand âge qui a une maladie chronique. C'est très nouveau, ça n'a jamais existé. Depuis 300 000 ans, on mourait à 30 ans. Aujourd'hui, on a une maladie chronique et un grand âge qui augmente, des vulnérabilités qui augmentent de façon considérable. Le problème, c'est que notre société néolibérale met comme valeur les valeurs du marché, il faut produire et consommer, et les valeurs de la performance. Il faut être jeune, rapide, et si possible, pas dépressif. En fait, la personne âgée ou la personne vulnérable est une contre-valeur, parce qu'elle ne produit pas, elle ne consomme pas, elle ne répond pas aux valeurs du marché, et elle n'est pas rapide, elle se prend les pieds dans le tapis, etc. Donc en réalité, si on met comme norme, non pas l'universel de l'humain, Mais comme norme, le marché et la performance, le problème, c'est que toutes les contre-valeurs à long terme sont en danger. Donc je ne suis pas en train de faire les mêmes raisonnements que François, je les pose différemment. C'est-à-dire soit on a une civilisation qui maintient un universel, soit on blesse l'humanité. C'est pas l'humain qu'on blesse, c'est l'humanité qu'on blesse.
Mais si je tire le fil de ce que vous dites et si je comprends bien ce que vous dites, est-ce que vous expliquez là que les personnes les moins rentables, les plus âgées seront poussées vers l'aide à mourir, en tout cas qui aura une pression adressée à leur endroit dans ce domaine?
En fait, c'est que les personnes intériorisent la valeur de la société. Elles intériorisent qu'elles sont une contre-valeur. Imaginez-vous en 20 ans dans un désert médical où il faut 3 mois pour avoir une consultation antidouleur, où il n'y a pas de médecin traitant, etc. Vous avez un petit héritage à transmettre, vous souffrez, le plus simple c'est l'euthanasie. Donc vous intériorisez le fait que vous êtes pas rentable, inutile, etc. C'est pas qu'il y a un grand méchant qui va les pousser. C'est simplement que vous modifiez les symboliques, vous modifiez les imaginaires, et vous êtes dans une matrice de pensée, dans un paradigme de pensée, dans une civilisation qui a modifié l'axiologie, les valeurs. Quoi.
François Blot, justement, sur le long terme, est-ce que là aussi, j'allais dire, on ouvre la porte à des dérives? Il y a un argument qui revient régulièrement dans le débat public actuellement, c'est qu'on ouvrirait la porte justement à l'aide à mourir pour les mineurs. Aujourd'hui, le texte tel qu'il est voté, l'un des critères, c'est justement d'être majeur. Est-ce que sur le moyen, long terme, on pourrait élargir, en tout cas c'est la première marche qui permettrait d'élargir le texte et les personnes qui y ont recours?
Alors, on va pas faire le procès des futures lois, alors que celle-là vient à peine d'être votée en vote solennel à l'Assemblée nationale et qu'il va y avoir la navette au Sénat, le retour en deuxième lecture, etc.
Donc, non, mais c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, justement, sur les lois dites sociétales. C'est
bien
un moment
sûr,
de...
Bien sûr.
On ouvre la porte à...
On ouvre la porte à, et on nous cite régulièrement le cas d'une patiente psychiatrique en Belgique, le cas d'une patiente mineure ici, et il y a toujours le cas qui fait peur. Et effectivement, on peut surfer là-dessus et dire que c'est la porte ouverte à n'importe quoi, et donc alors allons-y plus franchement, les mineurs, les pathologies psychiatriques, les personnes atteintes de pathologies psychiatriques, les personnes très âgées atteintes de polypathologies, donc de maladies multiples mais qui n'ont pas une maladie fatale dans le moyen terme, etc., etc. Donc effectivement on peut, moi je pense que ça c'est jouer à se faire peur.
Encore une fois.
Et le Bruno a cité un cas qui évidemment est, et c'était j'ai moyen aimé, parce que t'as cité le cas d'une personne qui est âgée, qui est dans une campagne, dans un désert médical, et puis derrière l'héritage peut-être à transmettre, une espèce de truc un petit peu glauque. Les formes, il y a de nouvelles formes effectivement de d'inégalité, de vulnérabilité qui apparaissent, mais elles sont liées non seulement à l'âge, à la polypathologie, à la solitude, etc. Certes, ça c'est vrai de tout temps et ça s'accroît. Mais il y a aussi effectivement les inégalités régionales. Ça, on peut espérer que la première partie de la loi,
sur les soins palliatifs,
va permettre de corriger une partie de ces défauts,
puisque certains départements sont totalement dénués aujourd'hui.
En tout cas, de lits fixes, même s'il y a des équipes mobiles et parfois des lits identifiés, mais de lits fixes, oui. Donc ça, il est certain qu'il y a des gros progrès à faire là-dessus. Mais il y a aussi une nouvelle forme de vulnérabilité. J'avais écrit dans un article, c'est les personnes qui sont de plus en plus sujettes à l'obstination déraisonnable. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et parfois, les personnes qui sont le plus demandeuses sont aussi les personnes les plus avec le niveau socio-professionnel le plus élevé. Donc, et parfois non. Enfin, ce que je veux dire, c'est que on peut pas tirer une généralité et faire le profil type de la personne vulnérable qui va sombrer dans le gouffre que vient de lui ouvrir ce vote solennel de la loi aujourd'hui, alors que auparavant tout était rose. Je voudrais revenir là-dessus. Moi, quand Bruno parle de rupture ou de virage anthropologique, etc., et de société qui devient néolibérale, validiste, etc. Mais c'est déjà le cas. C'est fait. La loi va rien changer. Dans les inconscients collectifs, entre ce que pensait ma maman d'elle-même, ou mes grands-parents au même âge que ma mère, il y a 40 ans et ce que les gens pensent d'eux-mêmes maintenant, c'est très très différent. La façon dont ils se voient, c'est très très différent.
Alors, qu'est-ce qu'ils pensent alors pour bien comprendre justement ce lien avec l'aide à mourir?
Un besoin effectivement d'être plus autonome, de ne pas se sentir dépendant d'une aide à manger, mais pour leur propre vision de dignité, pas forcément sur le poids qu'ils impliquent pour les autres. D'ailleurs, quand on reprend l'étude de l'État d'Oregon aux États-Unis, ce motif-là de poids pour les autres est le quatrième et pas du tout le premier. Donc,
État des États-Unis qui a légalisé
en 1997,
du 20e siècle, exactement, ouais. l'aide médicale à mourir.
Donc, je suis pas en train de me réjouir de tout ça. Attention, hein. Moi, je trouve ça assez triste qu'effectivement la société soit de plus en plus individualiste, de plus en plus à regarder sa propre performance ou sa non-dépendance à. Il y a quelque chose qui me donne à moi aussi le vertige. Mais pour moi, entre guillemets, le mal est fait, et c'est pas en se voilant les yeux face à cette évolution de la société qui a déjà eu lieu, qu'on va arriver à revenir à ces 40 ans idylliques que nous vivions auparavant.
Une réaction, Bruno Dalla Porta, courte, car je voudrais qu'on aborde la position du médecin dans cette nouvelle loi. Est-ce que vous pensez qu'il y a une rupture, toujours, ou qu'on acte, dans le fond, les transformations profondes à l'œuvre de la société ?
Oui, alors je vais essayer de répondre à vos deux questions en même temps. En fait, il y a un paradoxe dans ce que dit François, puisque dans tous les pays, on voit qu'après 20 ans, les bornes tombent les unes après les autres, les critères s'élargissent. On a les médecins étrangers qui viennent nous dire « levez-vous, mais levez-vous tôt ». On n'avait pas vu qu'on passerait aux personnes mineures atteintes de troubles psychiatriques, de troubles démentiels, aux personnes polypathologies. Polypathologie, ça veut dire vieillesse, en fait. Hein. On n'avait pas vu non plus qu'on pouvait faire euthanasie et prélèvement d'organes pour les donner à d'autres personnes. On n'avait pas vu tout ça, donc je ne vois pas l'argument. Deuxièmement, il dit la société néolibérale, hélas, est en route, etc.
Ben dans quel pays, pardonnez-moi, dans quel pays cela se passe tel que vous venez de le décrire ?
Les prélèvements d'organes ?
Oui, par exemple.
Je ne suis pas un spécialiste total, mais je pense qu'en Belgique ça se fait, je pense qu'au Canada ça se fait. Ouais. On donne ses organes après être euthanasié, je pense. Ouais. Donc en fait, les dérives, et ce n'est pas une dérive, c'est une suite mécanique du fait que vous faites tomber un universel et après vous allez de protocole en protocole. Ouais. Votre question, c'était quoi, rappelez-moi ?
Ma question, c'était justement, est-ce que, tel que l'exprime François Blot, dans le fond, on ne marque pas de rupture anthropologique particulière avec cette loi, on acte seulement les transformations profondes de la société qui s'étirent depuis des décennies ?
Ben, en fait, c'est le problème du Comité national d'éthique. En fait, il a commencé il y a 30 ans avec l'interdit de donner la mort qui était le pilier. C'est lui qui a rendu la philosophie du soin très créatrice. Et en réalité, le problème de l'éthique médicale, c'est que ce soit pour la naissance, recherche sur l'embryon, PMA, GPA, tout ce que vous voulez, ou la mort, greffe d'organes et euthanasie, en fait, ils n'ont pas de référentiel absolu. Parce que dès qu'on prend un référentiel absolu, on dit c'est Dieu, et donc l'argument n'est pas recevable à juste titre. Et donc, ils s'adaptent aux revendications des droits. Donc, ça ne fait que glisser. C'est-à-dire que l'éthique est devenue une machine de guerre contre la morale universelle. C'est une machine de guerre, elle démolit la morale universelle. Et là, c'est exactement, les propos de Françoise vont totalement dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de, il n'y a pas d'inconditionnel. Il faut un inconditionnel universel, sinon on n'y arrivera pas. Et donc, je ne sais plus ce que je vous dis, mais l'autonomie de la personne.
Vous savez.
Voilà. Le respect de l'autonomie de la personne, la loi Kouchner 2005. Je suis d'accord avec François, il faut écouter la personne, c'est elle qui décide. C'est ça l'éthique, c'est de répondre à elle, les concertations avec les proches, les bonnes pratiques, sous le crible de la morale qui dit « je ne te tuerai pas parce que j'ai des pulsions agressives, je peux être amené à vouloir du mal sur toi, etc. » Donc c'est un garde-fou de l'éthique. L'éthique doit être sous le crible de la morale. Et actuellement, le CCNE ne fait que glisser. Il dit non à la recherche sur l'embryon, puis après il dit oui peut-être, et après il dit on y va. Parce qu'en fait, il ne peut pas fonder une loi symbolique et universelle dans le temps et dans l'espace. Il y a une refondation de l'éthique, une refondation de la morale. Sinon, on en est dans une démolition du type philosophie utilitariste. C'est une philosophie utilitariste que propose François.
Un mot sur la position du médecin dans ce texte de loi. Il y a peut-être deux points importants à retenir. Le médecin pourra accompagner un patient qui souhaite se donner la mort lorsque ce patient sera dans une incapacité physique. Il ne pourra pas lui-même ingurgiter le produit létal. Ça, ce sera le rôle du médecin lorsque physiquement le patient ne le pourra lui-même. Et dans le même temps, les députés ont voté une clause de conscience pour les professionnels de santé qui refuseraient de participer à cette procédure. Il n'y aura donc pas d'obligation pour des médecins, pour des professionnels de santé d'accompagner dans la mort ou de donner la mort. Votre point de vue, François Blot, sur ce texte, est-ce que sur cette position du médecin, il vous paraît équilibré ?
Il me paraît un peu difficile à tenir en équilibre.
Pourquoi alors ?
On dit donc suicide assisté, même si c'est pas le mot qu'on utilise, mais la mort auto-administrée et pas l'euthanasie, sauf exception. Et alors là, pour le
sauf coup, incapacité physique.
Incapacité physique. Et comment, dans quel état va se retrouver le médecin qui va être avoir à juger du fait qu'il y a incapacité physique complète. Il y a tellement plus de clarté dans les pays qui ont laissé le choix à la personne du type d'aide qu'elle souhaite. Après, que le médecin le soignant en général, qui est heurté par ça, fasse jouer sa clause de conscience. C'est normal, et heureusement. Mais le Rubicon, comme on disait la dernière fois, le passage important, c'est la prescription. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une violence supplémentaire faite à un soignant, et moi j'en serais le premier meurtri, très touché d'avoir à préparer et injecter une seringue, bien évidemment. Mais pour moi, l'acte le plus fort en symbolique et en impact pour la personne, c'est le fait d'autoriser de prescrire. Et je voudrais revenir sur ce que j'ai entendu tout à l'heure, parce que ça rebondit, vous me parliez du rôle du soignant.
Je me permets juste de vous couper, parce que je voudrais bien cerner votre position. Ce que vous expliquez, c'est que dans le fond, le fait de reconnaître une incapacité physique telle qu'elle est écrite dans le texte va revenir au médecin. C'est cela qui pose problème. On aurait mieux fait de laisser au patient le choix de déterminer s'il préfère une auto-administration ou si il aurait opté pour une administration réalisée par le médecin.
Où va être le curseur de toi t'es pas assez incapable physiquement, débrouille-toi. Enfin, alors évidemment il y a des cas absolument caricaturaux où on a strictement pas la possibilité de bouger un petit doigt et un œil. Mais si on réduit la capacité à une aide, à une administration médicale, à ces situations, là pour le coup très très à la marge, je trouve que on abandonne.
Bruno Dallaporta, sur ce point justement, sur la position du médecin, des professionnels de santé en général dans ce texte.
C'est-à-dire que l'intégrité morale du professionnel de santé, il n'est pas attaqué lorsqu'il réalise des arrêts de traitement. Ce sont des bonnes pratiques. Elle commence à être attaquée avec le suicide assisté. Elle l'est encore plus avec l'euthanasie. Donc voilà, il y a un crescendo. Qu'est-ce que je veux que je vous dise ? Il y a une clause de conscience, très bien. Mais l'établissement, par contre, n'a pas de clause de conscience. Hein. Moi, je travaille dans un établissement avec 300 salariés. Si on refuse tous les 20 médecins, il y aura un bonhomme avec une petite mallette qui va venir parce que l'établissement sera obligé de le recruter pour réaliser l'euthanasie.
Je lisais par ailleurs qu'il n'y aurait pas de clause de conscience pour les pharmaciens qui fourniront donc le produit létal. François Blau, qu'est-ce que cela signifie ? Comment ça va se passer d'ailleurs très concrètement pour ce sont des médecins, des hôpitaux ? On n'imagine pas les patients qui se présentent à la pharmacie pour demander le produit létal. Non, comment ça va se passer concrètement justement ?
Non, il y aura une prescription qui sera faite par le collège de médecins qui aura examiné la demande et une préparation qui sera alors. Si j'en crois ce que j'ai lu des précédentes versions et des dernières pages, c'est une pharmacie hospitalière à usage interne ou une pharmacie accréditée en ville qui aurait ce droit, mais pas n'importe qui vient le chercher comme ça à la volée sans aucune préparation. Est-ce que je peux revenir une seconde sur le rôle du médecin, parce que j'ai entendu tout à l'heure je pense que c'était une députée qui disait qu'est-ce que je vais une personne vient me demander l'aide à mourir en me disant voilà, j'ai un diagnostic effrayant, je veux mourir, qu'est-ce que je vais lui répondre ? Et ça rejoint le rôle du soignant et ça rejoint le rôle de la question de la dérive absolue et de l'éligibilité super large. Mais le soignant, déjà, quand il entend ça, en tout cas, ce serait faire insulte aux soignants que de dire qu'ils ne le feront pas, il écoute davantage, il pose des questions, il creuse la volonté de la personne, il essaye de chercher le reste à vivre, il essaye de savoir ce qui motive la personne, où elle en est de son parcours, qu'est-ce qu'elle a reçu comme traitement. On cherche avant tout, on a tous fait ce métier-là pour... Alors moi, quand j'étais petit, maman me disait « tu fais ce métier-là parce que tu vas sauver des vies ». Je dirais pas sauver des vies, mais
vous allez vers la vie.
Mais on va vers la vie, de quand même largement de préférence. J'ai pas fait 30 ans de réa pour tuer des gens. Donc, on va s'obstiner encore, quoi qu'il en coûte, pour reprendre des mots célèbres, à chercher ce reste à vivre. Et même ce panel, imaginons, éligible de façon extrêmement large à des centaines de milliers de personnes. Mais nous, on est là derrière. On est là pour soigner. On est là pour chercher le reste à vivre. On va être un petit collège, pas trop gros non plus pour pas tout obstruer, mais suffisant pour avoir une multiplicité de regards. Donc, faisons un peu confiance et aux législateurs et à la sagesse des soignants.
Ce que j'entends, effectivement, c'est exactement le terme que j'allais employer, Bruno Dalla Porta, c'est... Est-ce qu'il ne faut pas faire confiance, j'allais dire, dans le regard, dans l'écoute que les soignants vont offrir aux patients qui leur demandent justement de les accompagner dans cette aide à mourir ? Votre sentiment sur ce point-là ?
Le problème, c'est est-ce qu'on garde un gouvernement par la loi morale ou est-ce qu'on passe au gouvernement par le protocole ?
Je me permets juste de vous tirer justement du point de vue du médecin.
Oui, d'accord.
Dans le secret.
Mais le problème n'est pas un problème médical. C'est pas un problème médical, c'est un problème philosophique. La mort n'est pas un problème médical, c'est un problème philosophique. L'enjeu, c'est de savoir si on fait tomber cet interdit. C'est pour ça que je réponds à ça.
Mais là, j'entendais un problème humain avant d'être un problème médical.
Mais si une personne, une fois dans votre vie, vous dit qu'elle a besoin de mourir, etc., vous y allez dans le tremblement, c'est elle, c'était vous, et vous vous en souvenez toute votre vie, etc., mais on va pas le protocoliser. Vous me faites dans une transgression, et la transgression vous rappelle une culpabilité, et la culpabilité vous rappelle qu'il y a une loi universelle. Par exemple, prenons l'interdit de mentir. Vous dites, c'est un principe universel, vous dites à vos enfants ne pas mentir. Mais vous savez qu'ils vont vous rouler dans la farine et qu'ils vont mentir. Mm-hmm. Mais vous allez leur dire que mentir va les rendre coupables et va les structurer, parce qu'il y aura un principe universel qui leur rappelle. Et la transgression n'annule pas le principe universel. Là, c'est le même problème. Et si jamais je vole une orange parce que j'ai plus de sous, j'ai transgressé. Mais ça n'empêche pas que ne pas voler est une loi. Là, on passe d'un gouvernement par la loi morale à un gouvernement par le protocole. C'est-à-dire qu'on multiplie les normes, les indicateurs, le pharmacien qui peut y avoir droit, etc. Parce qu'on fait tomber un protocole, ça s'exécute dans la banalité. Le gouvernement par protocole, ça s'exécute par la banalité. Il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de morale, il n'y a plus d'universel. C'est ça la différence. La différence est là.
Mais j'en reviens, pardonnez-moi, parce que je me permets de dire, de confier que je change d'avis à chaque fois que je vous écoute l'un et l'autre, donc c'est très compliqué, mais... Quand François Blot dit justement qu'il faut faire confiance aux soignants, je voudrais vous entendre sur ce point-là précis.
Comme on a l'interdit du meurtre, on a des fantasmes agressifs, nous les soignants. On a des désirs inconscients de mort. Le dimanche matin, le lundi quand on arrive et qu'il y a des personnes qui hurlent, il y a heureusement que cette loi morale nous protège. Le « tu ne t'auras pas » nous protège. Et deuxièmement, il nous rend très imaginatifs. On essaie de se débrouiller, d'accompagner, de dire « je serai là demain, je ferai ça comme... » Donc l'interdit, le « ne pas », le « non » nous rend imaginatifs et nous protège de nos fantasmes agressifs. Donc quand on dit la sagesse des soignants, la sagesse pratique selon Ricoeur, c'est une tension entre l'éthique qui dit oui et la morale qui vous dit non. C'est une tension dynamique, la sagesse pratique. C'est pas du tout un truc comme ça, gnangnang, on est gentil avec les personnes, on les écoute. Il faut un universel qui nous dise ne pas.
François Blot.
Oui, mais j'écoute avec intérêt. J'ai l'impression d'avoir mon petit Emmanuel Kant illustré sous les yeux.
Ah, c'est Paul Ricoeur.
Mon petit Hannah Arendt. Le vol, l'orange, le mentir, et puis la banalité du mal. Bon, ok. Et bien sûr, c'est Paul Ricoeur de façon plus proche, évidemment. Alors c'est bête ce que je vais dire, mais une personne. Je prends un cas, médiatique des 20 dernières années. Anne Behr, cette écrivaine qui est partie en Belgique. Paulette Guinchard, cette députée qui est partie en Suisse. Pas faire du pathos autour de tout ça, mais des gens qui ont des maladies pour les neurodégénératives dans lesquelles ils se savent enfermés et qui vont se dégrader. Je ne vois pas dire à ma consultation, si j'étais neurologue, à Anne Behr qui vient me voir en me disant bon bah voilà, j'ai mon rendez-vous dans X temps en Belgique ou en Suisse. Non, ça anthropologiquement et philosophiquement t'as pas droit. Ça me gêne. Alors c'est peut-être rabubonnais.
Mais justement, non, mais
c'est peut-être très court terme.
La loi qui interdirait ça pourrait vous aider en conséquence à dire non à cette dame.
Ou à transgresser. Ou à transgresser,
mais en tout cas...
Transgresser n'est pas pareil que faire tomber la loi.
La loi qui dit non, moi j'entends, alors pas tous les jours, mais dans l'hôpital où je suis, dans des saisines cliniques que nous avons tous les jours, ou presque sur des histoires complexes, il y a régulièrement des histoires de demande d'aide à mourir. Et parfois j'entends, ah j'ai d'abord répondu, ah bah non la loi ne nous le permet pas. Comme si c'était une espèce de truc qui empêche de réfléchir aussi.
La loi donc, morale, aussi... pas la loi juridique, la loi morale, la loi des hommes.
Non, oui, moi, à mon avis, je suis même pas sûr que tout le monde fasse complètement la différence. Je pense que tout ce qui empêche de penser et tout ce qui crée justement quelque chose de normatif est pénalisant.
Il me semble que la loi, en l'occurrence, n'empêche pas de penser. En l'occurrence, elle empêche d'agir, surtout. On a eu des débats durant des mois, des années, alors que la loi proscrivait l'euthanasie et l'aide à mourir. Donc elle ne nous a pas empêché, je veux dire, collectivement, de réfléchir à ce sujet, et elle n'a pas empêché de médecins
de penser à l'action possible. À partir du moment où le raisonnement au chevet d'un patient se réduit à la loi l'interdit ou même l'intérêt moral.
Je n'ai jamais dit ça. Le légal n'est pas le légitime. Je n'ai jamais parlé de légal. L'aide normative, ça veut dire qu'on met des protocoles. C'est ce que tu proposes, les protocoles. Je ne parle pas des protocoles. Je parle d'une loi comme la prohibition de l'inceste qui organise le monde.
Évidemment.
Bruno Delaporte, je voudrais réagir.
Il y a des grands tabous fondamentaux dans les civilisations. L'interdit du cannibalisme est un interdit. Qu'une personne dans la cordillère des anges mange son prochain, c'est pas un problème. Il transgresse. Mais on ne dit pas maintenant mangez-vous. La prohibition de l'inceste, certes, ça existe, mais c'est une loi qui organise, c'est une loi anthropologique. L'interdit du meurtre, c'est pareil. Et là, François a resté que sur le plan médical et pas sur le plan philosophique, fait tomber un interdit, l'air de rien. Donc, c'est-à-dire que c'est l'universel. Vous savez que notre monde est en effondrement symbolique. La tricherie et le mensonge a été élu aux États-Unis. Il y a une démolition de la science, Harvard. Il y a une démolition du langage. On est en train de faire tomber l'univers symbolique et c'est un marqueur de plus, celui-ci.
Un mot de conclusion, François Beau. D'ailleurs, je dirais même que vous n'êtes pas seulement, me semble-t-il, dans la dimension médicale, vous êtes aussi dans la dimension humaine. En vous écoutant, c'est ce que je me dis.
Il me semble, oui, mais peut-être que je me trompe. J'ai appris tout à l'heure, j'avais fait une erreur de calcul élémentaire, donc peut-être que je soigne mal aussi. Je m'inscris en faux contre tous ces parallèles, comparaison n'est pas raison, et donc à partir du moment où c'est... oui, mais c'est le petit vieux qui va avoir un héritage à refiler. Oui, mais c'est le cannibalisme dans les Andes. Oui, mais c'est l'inceste.
Parle d'un principe universel.
J'entends. Je pense que c'est bien de rester sur le sujet sur lequel nous sommes. Il est déjà suffisamment compliqué. Et alors, je suis d'accord pour insister largement sur les points philosophiques. Pour moi, il y a cet aspect-là qui est absolument majeur. L'aspect sociologique, on en parle pas beaucoup, l'évolution de la sociologie de la médecine et la sociologie des imaginaires des gens depuis 40 ou 50 ans, on en parle très peu. Or, tout ça a beaucoup bougé. Donc, je pense qu'il faudrait avoir deux pieds pour marcher philo-sociaux et pas aller chercher des choses extravagantes. Restons dans la santé et dans la notion de la fin de vie, c'est déjà assez compliqué.
On vous a bien entendu, philosophie, sociologie... et humanité. Merci beaucoup à tous les deux. Bruno Dallaporta, François Beau, merci d'être venu, d'être revenu même dans ce débat. On rappelle que les députés ont voté donc les deux textes, le premier lié aux soins palliatifs, le deuxième à l'aide à mourir.